C'est toujours avec joie que nous pouvons chanter et célébrer notre Dieu. Merci pour l'implication de chacun de vous ce matin. Que Dieu nous bénisse ensemble pour écouter sa parole aussi. Nous allons parler de la vocation du chrétien. Dieu nous demande beaucoup de choses. Dieu nous appelle. Il nous a appelés chacun pour le servir et l'adorer. Nous allons particulièrement parler de l'unité parce que nous avons plusieurs vocations. Je vous invite à lire dans Éphésiens chapitre 4 versets 1 à 6. L'apôtre dit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Éphésiens 4, chapitre 4, versets 1 à 6. Ici, pour commencer, l'apôtre nous exhorte à marcher d'une manière conforme à notre appel, à notre vocation. Vocation, c'est Dieu qui appelle. S'il est parlé de vocation, c'est Dieu qui appelle. Il nous a choisis. Notre vocation, c'est de marcher dans la lumière. L'apôtre dit comment nous devons marcher. Au verset 2, il parle d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter avec amour. Ces termes, d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter avec amour, doivent-ils caractériser notre vocation, notre appel? Eh bien oui. Car le contraire, c'est l'orgueil. Car l'orgueil est la gloire de posséder les choses, satisfaire les convoitises de notre corps, de notre cœur. Ce sont des sentiments qui ne devraient pas se trouver en nous, ne devraient pas trouver d'écho en nous. La base de bien de nos difficultés, les difficultés que nous pouvons rencontrer avec le péché, se trouve dans cette attitude d'orgueil, d'égocentrisme à peine perceptible. Vous savez, si vous êtes orgueilleux, si nous sommes orgueilleux, nous ne sommes pas forcément capables de voir cela. Ce sont des choses que moi personnellement j'ai découvert, que je peux être orgueilleux pour un rien. Soyons vigilants. Un Pierre, chapitre 1, verset 24, dit: car tout homme comme l'herbe, toute gloire humaine comme la fleur, sèche et tombe. C'est pour cela que si la parole de Dieu nous avertit que tout homme comme l'herbe, ça veut dire nous pouvons sécher, et toute gloire humaine comme la fleur, nous pouvons tomber. Ça veut dire que personne ne peut dire que je ne vais pas tomber, je ne vais pas sécher. Oui, c'est pour ça que Dieu nous dit d'être vigilants, attentifs. Et toujours, Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6, il est dit, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Nous voyons bien encore, il parle d'orgueil et d'humilité. Donc s'il n'y a pas d'humilité, c'est l'autre qui est là. S'il n'y a pas de douceur, c'est l'autre qui est là. C'est l'orgueil. Notre exemple est le Seigneur Jésus qui dit « Recevez mes instructions » en Matthieu 11, verset 29. Il dit cela « Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. » C'est le modèle quand il y a humilité, douceur, quand il y a la patience, quand on arrive à supporter les choses, tout cela, mais avec amour. Pas tout simplement comme ça, mais avec l'amour. Au verset 3, dans le texte d'Éphésiens 4, notre marche ici, nous devons conserver l'unité de l'esprit. Et c'est ça notre sujet particulièrement ce matin. L'unité. Nos chemins peuvent être variés, mais ils auront tous un trait commun, l'unité, en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui est notre vocation. Dieu nous appelle à cette unité. Cette unité a déjà été accomplie par l'Esprit, parce qu'en Éphésiens 1, verset 13, il a dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, dont vous voyez que cette unité, nous n'avons pas de nous-mêmes. En lui, vous avez cru, donc nous voici donc en communion avec le Christ, puisque nous avons cru en lui, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, par notre foi, à cause de notre foi, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et c'est cette unité que nous avons. Conserver cette unité demande quoi ? Un effort. Il est dit, dans ce verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit. » Donc nous voyons bien qu'il y a quelque chose à faire. Nous devons faire un effort. Cette unité sera atteinte si nous dirigeons nos efforts vers l'humilité et la douceur. C'est ça, à cela qu'il faut travailler. Avoir l'humilité et la douceur. Cette unité n'est pas celui qui découle d'une activité personnelle ou charnelle, des choses qu'on peut faire de nous-mêmes. Il est dit dans 1 Pierre 3, verset 8, « Visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons. Soyez humble. » Ce mot revient souvent quand il faut avoir cette unité. Aimez-vous comme des frères, comme des sœurs. Ça veut dire qu'il faut une unité. Et cela est toujours souligné par l'humilité. Attachez-vous, dit Colossiens, un autre texte, Colossiens 3, 1 à 7, il dit, au verset 2, il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » C'est là que notre vigilance doit être une priorité. Faire attention aux choses qui nous entourent et plutôt avoir le regard vers ce qui est en haut. et non à celle de la terre. Nous sommes appelés à maintenir, c'est-à-dire à manifester aux yeux de tous cette unité. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour conserver. Non, nous sommes là pour manifester effectivement cette unité. Vous savez que pour venir au culte aujourd'hui, est-ce que vous êtes arrivé là comme ça, sans faire d'effort? Déjà, vous avez fait un effort pour vous lever, n'est-ce pas? Qui n'a pas fait d'effort ce matin? Vite ça, vite ceci, vite cela. Peut-être même, bon, après, c'est la colère. Beaucoup de choses peuvent nous contrarier. Et pourtant, on vient pour rendre culte à Dieu. Et là, on n'est déjà pas dans une bonne disposition. Et tout cela pour être à l'heure. Parce qu'il faut être à l'heure au rendez-vous du Seigneur. Peut-être que si c'est la Sainte-Cène, pour ne pas rater la Sainte-Cène. Puisque nous, on le fait au début. Il y a des églises, c'est à la fin. Ça encourage encore les gens à, bon, je prendrai la fin. Non, mais comme c'est le début, il faut faire un effort. Vous voyez que vous gardez cette unité. Parce que nous sommes là pour nous unir, pour offrir un culte à Dieu ensemble. Pour chanter à Dieu. Si vous arrivez, on a déjà chanté plus de la moitié des chants, vous avez perdu quelque chose. Vous n'avez pas rendu à Dieu quelque chose. Il manque une part. Nous sommes appelés à manifester cette unité, quelle que soit la manière, que ce soit pour la réunion de prière, réunion de sœurs. Il y a un rendez-vous, si on n'est pas là. Ça me fait penser quand le Seigneur, les sept vierges, ils sont pas allés. Le Seigneur est arrivé, mais voilà, il manque quelque chose. Voilà la vraie source de l'unité qui doit habiter en chaque croyant. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, nous fortifie. Vous pensez que l'Esprit veut dire, bon, on a le temps d'arriver. L'Esprit ne dit pas ça. L'Esprit t'a dit, hop, il faut y aller. Mais c'est nous, c'est nos efforts à nous qui, voilà, c'est nous qui traînons. C'est nous qui ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Cette unité s'obtient généralement aux dépens de la foi. Je pense que nous avons la foi, mais il faut cette foi en la personne, vraiment que cette foi soit en la personne de Jésus-Christ. Dieu unit les hommes seulement en Jésus-Christ. Dieu a déjà fait sa part. Il nous a dit de faire des efforts. Il faut s'efforcer de vivre pour Dieu. Et ce que je dis là, ce n'est pas des efforts pour vous, c'est pour Dieu qu'on fait ces efforts. Ne pas gaspiller l'amour pour Dieu en jouant avec le péché, les choses du monde. Cet ennemi de nos âmes qui s'oppose systématiquement à nos moindres efforts, de faire ce qui est bien, de faire le bien. Et ce qu'il veut, c'est qu'on fasse le mal. C'est à nous de ne pas nous laisser décourager et emporter par tout ce qui peut nous venir à l'esprit, tout ce qui peut nous empêcher à donner cet amour à Dieu, cette priorité à notre Dieu. Et au verset 4 d'Éphésiens, il est question du corps de Jésus-Christ formé de tous les enfants de Dieu, nés de nouveau. Il y a un seul corps. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Puisqu'il y a un seul corps, et que ce seul corps est celui de Jésus-Christ, je dois m'efforcer de réaliser l'unité de ce seul corps. Et ce corps est animé par un seul esprit et s'appuie sur une seule espérance. Tout dépend de nous. À nous de faire des efforts. Nous avons vu le corps, nous avons vu l'esprit, l'espérance. Et au verset 5 apparaît trois autres choses. Il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Dans différents textes, l'apôtre Paul parle de la confession de Jésus comme le seul Seigneur. Il dit dans Romains 10, par exemple, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, des morts, tu seras sauvé. » Dans un autre texte, il dit, « Je vous déclare que personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », ne dit « Maudit soit Jésus », et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Voyez, nous sommes encouragés à confesser le nom de Jésus, le nom du Seigneur, le seul Seigneur. Il est dit dans Philippiens 2, 11, « Et que toute langue confesse, proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ainsi, nous voyons qu'il est juste et nécessaire aussi de professer sa foi, de dire que nous avons un seul Seigneur, pour autant que cette profession corresponde vraiment à une réalité intérieure en nous de la foi en Jésus-Christ. Il faut être sûr que vous avez accepté Jésus-Christ, que vous croyez en Jésus-Christ. Et enfin, le baptême, qui ici, par rapport au contexte, parle certainement du baptême d'eau. Lorsque l'on accepte Jésus-Christ, justement par la foi, Jésus comme Seigneur, quelle est la chose qui doit suivre? Quelle est notre responsabilité quand nous avons accepté un seul Seigneur et que nous avons obéi à une seule foi? Car le croyant passe ainsi des ténèbres à la lumière, parce que nous devons marcher par la lumière. Notre vocation est de marcher dans la lumière. Et il passe de la puissance de Satan à Dieu par la foi en Jésus-Christ et reçoit le pardon de ses péchés. Voilà ce qui suit le baptême. Vous savez, le passé, parce que nous avons péché, ne doit pas nous enfermer. Il faut se repentir et que chacun soit baptisé, car le salut est personnel. Et le baptême ensuite est un acte d'obéissance à Jésus-Christ, tout simplement, parce qu'on a reconnu Jésus comme le Messie qui sauve, on l'a reconnu comme le Christ, le Sauveur du monde. Si vous avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur, par la foi, doit suivre le baptême. Souvent, ça fait peur. Je dirais le mot peur parce qu'on se demande, suis-je prêt? Est-ce que je peux? Et si vous avez vraiment mis votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est un acte d'obéissance. Au verset 6, pour terminer notre partage, réalisons que Dieu est bien le Père de tous. Si Dieu n'était pas le Père de tous, il ne pourrait commander de le respecter. que tous le respectent. Oui, Dieu nous appelle à un certain respect pour lui. Je dis certain, mais beaucoup de respect. C'est justement parce qu'il est le Père de tous que nous proclamons le message de la réconciliation avec lui. Oui, Dieu le Créateur, Dieu le Père. Dieu a créé le monde et tous ceux qui l'habitent. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il règne au-dessus de tous, nous dit le verset 6, et parmi tous et en tous. Ce tous est l'indication tout simplement de sa vie en nous. Un seul Dieu est Père. Le verset 6 dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Un seul Dieu est Père. Nous avons vu, bien aimé, cette affirmation de notre unité. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu et Père de tous. Ces affirmations, par l'expression « un seul », devraient nous conduire à une grande unité les uns avec les autres. Chaque enfant de Dieu possède ces choses, quelles que soient ses connaissances ou son ignorance, quelle que soit sa richesse, ou même s'il est pauvre. Combien peu nous reflétons cette unité devant le monde et entre nous? Nous savons bien combien nous avons encore à travailler, à nous efforcer. Que le Seigneur nous aide à vivre ce que nous sommes par sa grâce, pas par nous-mêmes, mais par sa grâce. Ce que vous êtes par sa grâce, dans l'unité de l'Esprit qui habite, qui soutient et enveloppe le croyant, puis l'instruit, le conseille. Conseil et instruction sont donnés par la parole de Dieu qui fait autorité. C'est là que vous allez trouver les conseils, les instructions pour tenir bon. Cette unité, elle est à conserver. À conserver. Le verset 3 nous a dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Tout simplement en nous attachant à l'enseignement de la parole. Et chacun contribue à son service. Vous êtes enfant de Dieu parce que vous êtes appelé à servir, à adorer Dieu, à faire sa volonté. Vous savez que pour la croissance de l'Église, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme docteurs, mais nous avons chacun un don. Nous devons aussi contribuer à la croissance de la communauté par notre unité, avec le don que Dieu nous a donné, nous aimer les uns les autres. Ces dons sont nécessaires pour la croissance de l'Église dans le but de l'unité de l'Église, tout simplement. L'unité de l'Église, nous savons, est attaquée de tous côtés. Si nous ne prenons pas garde, tout simplement. Notre vocation est d'être unis par l'Esprit. Comme le dit le verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix qui est en Jésus-Christ. Je dirais, comme chacun nous pouvons dire, non aux divisions, oui à l'unité parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. L'unité nous rappelle Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la création. Ce n'est pas la première fois que nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et plus loin, il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Genèse 1, chapitre 1. Il y a aussi cette unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la nouvelle création. Dans Tite, il a dit, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Il a répandu le Saint-Esprit sur nous. Il y a aussi cette unité dans le baptême de Jésus. Il est dit dans Matthieu 3, versets 16-17, « Dès que Jésus eut été baptisé, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et la voix de Dieu se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il y a toujours cette unité. Il y a aussi l'unité dans le baptême des croyants. Matthieu 28, à les fêtes des nations, dans toutes les nations, des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, nous avons été baptisés. Donc nous avons cette unité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous a appelés. Quel privilège. Et il y a l'unité dans la vie du croyant. Jésus, il est dit dans Jean 14, verset 15-17, Jésus a prié le Père afin que le Père nous donne un nouveau consolateur, un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et là, nous voyons qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide vraiment à vivre cette unité de l'esprit. Et comme il le dit, par les liens de la paix. Que Dieu nous encourage à faire cet effort de vivre l'unité en son nom et pour sa seule gloire. Amen.